Comme chaque mercredi sur Radio Campus, à 17h30, vous avez rendez-vous avec le magazine Lila Info, un magazine donc qui est réalisé à partir des propositions de l'Université Lila. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir régulièrement des personnes qui travaillent, qui collaborent avec l'Université de Lila, et donc présenter des projets ou des services ou des laboratoires, voilà, ou des expériences, ou même souvent d'ailleurs, des propositions culturelles, notamment celles qui sont faites par l'Espace Culture, qui est juste à côté de Radio Campus d'ailleurs. Aujourd'hui, on va parler science, on va parler de biodiversité, avec Monsieur Alain Leprêtre. Bonjour Monsieur Leprêtre.
Bonjour.
Donc La biodiversité, c'est un nom très large, un mot très large qui englobe tellement de choses qu'on ne saurait en faire le tour, du moins en tant qu'humain.
Oui, bon, c'est un terme assez simple, c'est un terme très à la mode qui vient d'une contraction de diversité biologique, en fait. Donc, on parlait jadis, au niveau scientifique, on parlait tout simplement de diversité, puisque dans notre milieu de biologiste, évidemment, on ne sentait pas l'obligation de mettre le bio devant. En fait, c'est depuis que ce terme est passé grand public et a atteint le citoyen et les politiques que, en fait, on a inventé ce néologisme. Bon, c'est à 25 ans, en fait, et c'est un peu avant le fameux sommet de la planète de Rio que le terme a été lancé sur le marché et a manifestement bien pris, puisque maintenant il est prononcé par tout le monde, largement à la place du mot nature d'ailleurs, qu'on finit par oublier.
Voilà, donc le bio est à la mode, c'est sûr. Néanmoins, on sait quand même un peu de quoi on parle. Quand on parle de diversité, bon, c'est beaucoup plus large. Biodiversité, on a quand même une idée, en gros, de l'environnement, les différents axes peut-être. Par exemple, tout ce qui est végétal, animal, écosystème.
Oui, dans l'acception normale maintenant du terme biodiversité, c'est à la fois la diversité des espèces, qu'elles soient animales ou végétales, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des espèces différentes, nombreuses. C'est aussi la prise en compte aussi de la diversité au sein même d'une espèce, la diversité purement génétique, hein, le fait que les individus d'une même population, qu'elles soient végétales ou animales ou humaines, sont heureusement très différents les uns des autres et quelque part un peu préparés à un monde changeant et variable. Et puis il y a aussi la diversité, je veux dire, plus globale, qui est la diversité des paysages qui, en fait, ou des fameux écosystèmes, qui sont en fait une interaction entre le vivant et le vivant et le non-vivant, mais on prend en compte aussi cette diversité des paysages, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette acception simplement catalogue d'espèces, il y a aussi les contextes qui sont pris en compte aussi dans cette diversité.
Donc, Alain Leprêtre, vous êtes maître de conférence en biostatistique à l'IUTA de l'Université Lille, vous l'avez été, puis professeur d'écologie au sein de l'UFR de biologie, et actuellement
Toujours cette même fonction de prof d'écologie, mais je m'occupe d'une petite équipe au nom pompeux d'écologie numérique et écotoxicologie, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un aspect numérique donc, qui montre cette nécessité de quantifier en fait, le vivant, la diversité. Et puis il y a également, évidemment, le mot écotoxicologie, puisque bon, on est dans le nord de la France et on a quand même des préoccupations qui rejoignent souvent les problèmes de pollution. Alors cette équipe, malgré tout, fait partie d'un consortium, j'allais dire, plus large, qui est un récent, qui est un laboratoire de génie civil et géo-environnement, donc un nom peut-être un peu compliqué, mais en fait on s'est réunis au sein du presse Lille Nord de France avec des collègues qui travaillent plus sur l'habitat ou sur l'urbain, sur les matériaux, de manière à avoir des ponts un peu plus serrés entre les écolos qui sont quelque part des empêcheurs de tourner en rond et puis les bâtisseurs, les constructeurs, à qui finalement le meilleur moyen de bien bâtir pour le respect de la planète ou tout au moins de notre environnement, tout compte fait, c'est de travailler avec eux. Et donc ça, c'est évidemment, c'est ce consortium est dirigé par, il se trouve que c'est le VP de notre université, à savoir Issam Charour, qui est lui plus dans le domaine physique.
Le VP étant le vice-président.
Voilà, le vice-président. Et moi, je me charge plus particulièrement de l'animation du secteur environnement, avec mon toutes ces... Il y a notre équipe et puis d'autres équipes périphériques avec lesquelles on collabore.
D'accord. Alors, si on veut avoir une idée précise des cas concrets sur lesquels vous penchez, qu'est-ce qu'on peut donner comme information ?
Ben, sont essentiellement, j'allais dire, du diagnostic en gros d'état de fonctionnement d'écosystèmes de nos régions, j'allais dire, puisque on travaille sur zone atelier, le mieux quand même c'est des zones atelier sur le domaine pollution ou agression contre les écosystèmes, évidemment on n'en manque pas ici dans la région. Et donc ça c'est donc des opérations de diagnostic, mais aussi avec un objectif de restauration, de remédiation. Donc travail sur zone polluée, sur zone fragmentée, sur zone dégradée, pour être force de proposition en matière de reconstruction ou de gestion de nos écosystèmes.
Alors c'est vrai que l'industrie lourde, c'est-à-dire traditionnelle de notre région, a laissé des séquelles.
Des séquelles sérieuses, effectivement. On a des territoires qui sont nécessairement en voie de reconversion, ne serait-ce que pour des raisons de nécessité d'arrêt de production alimentaire sur certains secteurs, puisque malgré tout, le plomb ou le cadmium qui a pu être déposé ne s'est pas transformé en volvic, hein, en gros. Et le plomb reste du plomb, n'en déplaise aux rêveurs. Et puis, bon, évidemment, ces territoires qui font des kilomètres carrés, pour ne pas dire des dizaines de kilomètres carrés dans certains secteurs, eh bien, il faut essayer quand même de les reconvertir, c'est-à-dire d'essayer de... Malgré tout, les transformer en quelque chose de, pas seulement d'esthétique, mais d'utile. Et donc, une des orientations fortes de notre activité, c'est essayer de voir, par exemple, une reconversion en agriculture non biologique, en agriculture de production d'énergie, par exemple, parce qu'il y a évidemment, l'écologie doit se mettre aussi en interface avec l'économie et avec le social. Donc, il y a une quantité d'agriculteurs périurbains qui ont absolument ce besoin d'une reconversion des terres.
Alors, on a des exemples qui nous viennent tous à l'esprit, par exemple Metal Europe. On peut peut-être faire un petit bilan de l'état sanitaire, on va dire, du lieu, mais peut-être aussi d'autres qu'on connaît moins.
Bon, en ce qui concerne Metal Europe, là, évidemment, on connaît bien, puisque c'est notre zone atelier principale. Je n'avais pas voulu prononcer le nom pour pas enfoncer ce pauvre secteur de Eva Malmaison, Courcelles-lès-Lens et autres. Mais bon, il y a le point positif, si on veut, alors peut-être pas du point de vue industriel, le point positif, c'est que les retombées n'existent plus, vu que les industriels se sont sauvés, mais évidemment, malheureusement, évidemment, des métaux, ça n'est pas dégradable, ni biodégradable, ni chimiodégradable, c'est pas dégradable du tout. Et donc c'est dans ces secteurs-là que la réflexion est forte pour justement opérer cette reconversion, parce que bon, les teneurs en métaux, par exemple, sont des teneurs quand même qui sont des teneurs records. Et évidemment, il faudrait le budget de l'État pendant 5 ans pour y remédier de manière purement chimique. Donc le mieux, c'est d'essayer quand même de fixer les choses et puis de reconstituer des paysages et mettre ces métaux en dehors de portée, d'une part, des habitants superficiels, que ce soit les humains, mais aussi les animaux de toutes sortes, de manière à ne pas véhiculer ces métaux, et puis éviter aussi une migration vers le fond, parce qu'il y a évidemment la problématique de la protection de nos ressources, et de notre ressource en nous, tout particulièrement.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des études épidémiologiques sérieuses, donc des problèmes de ces zones, cette contamination sur les habitants du quartier, voire plus loin ?
Elles ont eu lieu, elles ont eu lieu. Bon, elles ne sont pas de notre fait, ce sont des collègues d'une université amie qui ont procédé à ces analyses. Il y a eu évidemment des atteintes chez les. Il y a eu des atteintes chez les enfants, bien sûr, hein, puisque évidemment la caractéristique des gosses, c'est évidemment de traîner un peu à terre et de se lécher un peu les doigts. Et donc évidemment, il y a eu un peu d'effet. Maintenant, l'ampleur des dégâts est quand même difficile à évaluer. Mais on travaille en tout cas à ce que un couvert végétal important maintenant mette à l'abri des réenvols de poussière, de sorte que en fait cette région revienne à un niveau de qualité quand même suffisant.
Alors, quand il y a une étude comme ça qui est faite, est-ce qu'elle est publiée? Est-ce que les habitants de la région ou de l'endroit sont mis au courant? Comment ça se passe?
Comment ça se passe? Bon, en général, c'est commandé, hein. Donc, ces études sont commandées, puisqu'en fait, on ne peut pas se présenter chez les gens comme ça pour faire une étude épidémiologique, hein. Donc, il y a d'ailleurs certains s'y refusent, hein. Certains refusent de s'y soumettre. Donc, c'est assez compliqué pour les collègues qui se sont lancés dans ces affaires-là. Et malheureusement, on est dans un système, enfin, malheureusement ou heureusement, un système organisé ou assez administratif, le rapport est remis. Maintenant,
Alors,
le devenir du rapport,
il est remis au commanditaire.
le rapport est remis au
Qui
commanditaire,
est
bien
qui en
entendu.
l'occurrence?
Le commanditaire, bah, ça peut, alors ça peut, c'est varié. Généralement, les commanditaires sont pas des structures privées, enfin, sont des structures assez nébuleuse mais maintenant ce qui devient derrière, là je bégaye parce que je sais pas trop ce que ça devient.
D'accord.
Ce qui m'a choqué il y a une dizaine d'années, c'est qu'on a presque accablé un certain nombre de collègues scientifiques de Lille, enfin de Lille 2 pour ne pas les nommer, de n'avoir pas communiqué cette information, alors que bon, cette information avait été communiquée de fait par le biais des rapports. Maintenant, ce que les politiques ou les responsables à différents niveaux veulent bien faire de ces rapports et veulent bien ce qu'ils veulent bien diffuser, évidemment, ça n'est pas de notre fait. Hein. Donc là, alors évidemment, on peut toujours accuser les scientifiques de se mettre en retrait, mais de fait, par contrat, en fait, il nous est interdit de diffuser des informations qui pourraient, il faut bien le dire aussi, effrayer excessivement aussi le citoyen. Il ne faut pas non plus sombrer dans le catastrophisme. Donc,
Mais par rapport à cela, on peut imaginer que la DAS, par exemple, ait un rôle de concentrer un petit peu ce qui est fait comme étude et d'en tirer sinon des leçons, du moins des orientations.
oui, bah, je crois quand même qu'il y a eu des. Il y a eu, bon, honnêtement, je suis pas sur le domaine médical, hein, je suis sur le domaine très écologie, et donc m'abstiens quand même de prononcer au nom de nos collègues médecins. Mais bon, si, des efforts ont été faits de ce point de vue-là. Mais maintenant, bon, je crois que le jeu est difficile entre la DAS d'une part et puis des maires de communes qui ont besoin de voir vivre leur commune et de ne pas voir, éventuellement, ces communes complètement désertées. C'est toute la difficulté qui existe entre la prévention et la prévention des risques, et puis d'un autre côté, les nécessités économiques de faire vivre les bourgs, quoi, les villes.
Alors, dans notre région, il y a de nombreux sites Seveso également, hein, des sites qui sont classés dangereux, on va dire, hein. Est-ce que sur ces sites-là, vous avez une mission particulière?
Non.
Non,
Non.
non.
Bah, on n'a pas cette vocation, hein. Donc, en
D'accord.
fait, on n'est pas organisme de surveillance. Non, là, c'est la vocation en fait
Adrir.
de la DRIR, hein. Donc, là, c'est nous les contacts avec ces organismes ont des contacts assez faibles.
Donc vous intervenez parfois en amont, parfois a posteriori, comme là, Metaleurop, c'est forcément après les dégâts.
C'est après, ouais, bon, il se trouve que bon, les gestionnaires de sites, hein, que ce soit les communes, les communautés de communes ou agglomérations, ont besoin d'outils pour choisir en fait des orientations en termes de gestion. Nous, on est très très en amont puisqu'on est dans la compréhension du fonctionnement des systèmes et puis essayer dans la mesure du possible d'être force de proposition en termes de meilleurs moyens de pallier les difficultés.
Mmh. Alors, tout cela, évidemment, vous faites des propositions scientifiques. Pour leur application, il y a besoin aussi, je suppose, de financement, de capitaux.
Oui, évidemment, il y a des organismes nationaux hein, qui ont cette vocation, notamment l'ADEME, par exemple, mmh. qui, évidemment, est force de propositions et qui lance des appels d'offres sur ces sujets. Qui est également impliqué dans la mise en place de ces sites ateliers dont je parlais tout à l'heure. Le site Metal Europe, par exemple, est reconnu maintenant comme un site, une zone atelier nationale, donc sur laquelle, d'ailleurs, il n'y aura pas uniquement les chercheurs du Nord-Pas-de-Calais, mais tout chercheur à l'échelle nationale, voire internationale, peut venir travailler sur ce site sur lequel on a quand même accumulé depuis une trentaine d'années une quantité de données assez considérable et qui vont permettre quand même de mieux comprendre et de transposer à d'autres situations relativement comparables.
Donc là, effectivement, il y a de nombreuses zones dans la région qui sont touchées. Certaines, on va dire, on essaye de camoufler les problèmes en évitant que la pollution ne se propage, aille dans l'eau, les nappes phréatiques, etc. D'autres qui sont plus ou moins contaminées, on met des bâches, on met des interdictions de circuler, on met des arbres plus ou moins au-dessus, en dessous, je ne sais pas comment ça se passe.
Oui, bon, ça c'est, je pense que c'était peut-être le raisonnement d'il y a 20 ou 30 ans. Je pense que maintenant il devient difficile quand même de pratiquer de la sorte. Je crois que il y a quand même une sérieuse, bon, je ne veux pas non plus sombrer dans l'optimisme béat, mais il y a quand même une sérieuse évolution quand même en la matière. Je pense que les choses sont beaucoup moins cachées. On l'a vu par exemple pour ce qui est des déchets, hein, où ce que l'on appelait des dépôts d'ordures maintenant sont des zones quand même beaucoup plus maîtrisées. Et quand on parle de bâches, en fait, il s'agit surtout de systèmes de protection contre la diffusion d'éventuelles pollutions vers les nappes. Hein, donc il y a quand même une meilleure maîtrise. Ce que l'on paie actuellement, ce sont surtout les erreurs du passé, hein, donc les grosses erreurs du passé, des années... je veux dire, d'avant les années 70 ou d'avant les années 80.
Est-ce que vos études permettent justement à la DRIR de prendre des précautions quant à l'implantation de nouvelles industries ?
Les connaissances apportées, de toute façon, c'est des connaissances qui sont dans le domaine public et qui, heureusement, sont prises en compte par les DRIR en matière de décision. Non, donc maintenant, faut quand même dire qu'il y a de très sérieux progrès. Parce que, pour revenir là-dessus, la difficulté, c'est gérer le passé. Je ne dis pas que l'actuel est idéal, mais il devient quand même très très difficile, quand même pour un industriel maintenant, d'installer une nouvelle entreprise dans la conséquence la plus complète.
C'est vrai que pour ces entrepreneurs, ça devient même très compliqué.
Ça devient très très dur, oui.
Donc c'est vrai que la balance est à faire entre ce que l'industrie apporte et les problèmes qu'elle pose, hein, toujours. Hein. Par exemple, s'il avait fallu à l'époque de Metal Europe ou d'autres, hein, de l'industrie charbonnière en général, faire payer réellement le coût avec les problèmes que ça pose du produit livré, ça aurait été peut-être une autre économie,
Oui, mais bon, je ne voudrais pas sombrer dans le gauchisme, mais je pense qu'il y avait des marges qui étaient largement suffisantes si on avait eu peut-être connaissance ou si on avait été un petit peu plus consciencieux, du moins au niveau de ses décideurs. Je pense qu'il y avait les marges pour quand même éviter les épandages. Certains épandages un petit peu scandaleux ou un peu outranciers.
Alors ce qu'on voit en France, ou ce qu'on a vu en France il y a quelques années, on le retrouve dans d'autres pays du monde maintenant, et on importe allègrement tous ces produits qui sont fabriqués ou produits dans des conditions peut-être pires encore que chez nous.
Oui, et c'est pour ça qu'il est de notre responsabilité aussi, ayant fait ces erreurs, de bien faire savoir en fait que l'on a fait des erreurs et qu'on a quand même maintenant un mode de raisonnement qui permettrait et des connaissances qui leur permettraient de ne pas se mettre dans la même situation que nous. Je crois que ce qui est importe maintenant, c'est dans ces pays en émergence, de bien leur faire comprendre que, évidemment, essayez de ne faites pas comme nous, évitez ces erreurs, votre territoire risque fort d'en souffrir sur le moyen ou le long terme.
Alors ça suppose que les importateurs soient prêts aussi à payer le prix,
Bien entendu.
sans faire du gauchisme
Voilà.
animal.
Ça le suppose.
Donc votre laboratoire génie civil et géo-environnement, justement, est-ce qu'il intègre des chercheurs ou des étudiants, des doctorants qui viennent de pays qui peuvent avoir
Oui,
ces difficultés?
il y a effectivement des étudiants, pas mal d'étudiants en fait d'Afrique du Nord, et pas mal d'étudiants chinois également. Donc, si, je pense que on a des chances d'exporter un petit peu cette. C'est pas ces leçons de morale, c'est plutôt ces mea culpa en fait. Hein, s'ils pouvaient les prendre à leur compte, ce serait quand même très bien.
Alors, il y a ça aussi, leur donner des savoir-faire.
Par la même occasion, bien sûr. Oui.
Donc, comment vous pratiquez au niveau de votre laboratoire? Vous avez des chercheurs, vous avez aussi des gens qui cherchent à apprendre, des doctorants qui viennent pour se former, pour.
Oui, ben, les doctorants, en fait, c'est la définition. C'est quasiment ça, en fait. La vocation d'un doctorant est quand même très généralement de repartir. Hein. Bon, on en garde de temps en temps un quand un poste se libère, mais les choses se font rares. Donc la vocation du doctorant, c'est effectivement c'est d'essaimer. Hein. Et effectivement, on est dans notre domaine, on est quand même de plus en plus à travailler avec des étudiants, des doctorants étrangers. Parce que là aussi, évidemment, les bourses de doctorat pour français sont pas non plus sont pas à la mesure de nos propres besoins de recherche. Hein,
Alors, Alain Leprêtre, comme vous le disiez, vous, votre domaine, il est bien spécifique, mais vous travaillez aussi avec avec des gens qui se préoccupent de la santé, des gens de l'Île-2, forcément.
Oui, mais bon, on travaille, on s'interface avec eux maintenant, évidemment. On n'est pas au fait de tout ce que font
Bien
nos
sûr.
collègues, hein, mais généralement les programmes maintenant sont de plus en plus multidisciplinaires, même quasiment tous, hein, c'est-à-dire que il est hors de question de travailler uniquement sur des aspects strictement écologiques, petites bêtes, petites plantes. Il y a forcément la dimension humaine et il y a aussi les dimensions socio-économiques qui sont systématiquement prises en compte également. Donc maintenant les programmes sont de manière générale multilaboratoire.
Alors, à un moment donné, l'Europe finançait aussi les restructurations de territoire. Est-ce que vous vous êtes aidé par l'Europe?
Oh, nous directement, non.
Non.
Indirectement peut-être, puisque d'une certaine manière, on peut aussi émarger à des, ou du moins proposer des programmes au niveau européen, mais bon, on n'a pas des retombées directes. Hein, je veux dire, c'est.
C'est vrai que le FEDER s'est intéressé à la modification suite à la désindustrialisation, de corriger un petit peu tous les paysages verts qu'on voit. C'est un peu
Oui.
ça, hein, c'est un peu
Ah
des
ben,
financements européens quand
le
même.
FEDER a participé pas mal, par exemple, au programme État-Région des 10-15 dernières années. Hein, donc les programmes dits régionaux étaient en fait des programmes État-Région aidés par le FEDER. Hein,
Alors, tout le problème, c'est les fins de programme, quoi.
le problème, c'est les fins de programme, voir comment on va rebondir sur.
Voilà.
Puisque difficile quand même de s'arrêter en cours de route.
Très bien. Bien, monsieur Alain Leprêtre, merci. Donc, si vous aviez un vœu formulé pour 2011, ce serait lequel?
Oh là là. Pouvoir continuer de travailler dans des conditions, si possible, un peu plus acceptables, parce que en fait, le problème qu'on a au niveau scientifique généralement, c'est que maintenant, on est plus. Certains d'entre nous sont plus à la recherche de financement qu'à la recherche elle-même. Voilà, encore un souhait de gauchiste.
Très bien, on a bien compris votre message. Merci et meilleurs vœux.
Merci.